Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, l'ONU appelle les responsables politiques irakiens à écouter leur population, le PAM souligne les bienfaits des repas scolaires pour les enfants et le développement en Afrique, l'OMM annonce des températures supérieures à la moyenne dans les mois à venir, et en dossier rencontre avec Ibrahim Mayaki, le coprésident du groupe de haut niveau pour la lutte contre les flux financiers illégaux. Le Conseil de sécurité a fait le point ce mardi sur la situation en Irak. L'envoyé de l'ONU dans ce pays, Janine Ennis-Pleschert, a noté que les manifestations anti-gouvernementales continuaient depuis 5 mois et a encouragé les responsables politiques irakiens à écouter leur population. Jérôme Bernard nous en dit plus.
L'envoyé de l'ONU en Irak a estimé qu'après des mois de manifestations et de nombreux morts et blessés, il était clair que les manifestants pacifiques, soutenus par une majorité silencieuse, ne renonceront pas à leurs aspirations. Dans ce contexte, elle a regretté le peu de mesures prises par le gouvernement pour répondre à cette demande. Janine Ennis-Pleschert a estimé que tous les responsables politiques, et pas seulement le Premier ministre, devaient jouer un rôle dans les efforts pour restaurer la confiance de l'opinion publique dans son gouvernement et ses institutions. Fin novembre 2019, le Premier ministre Abdul Mahdi a annoncé sa démission et il y a quelques jours, le nouveau Premier ministre désigné a retiré sa candidature. Le président a désormais 15 jours pour désigner un nouveau Premier ministre. Selon l'envoyé de l'ONU, tout cela prolonge l'incertitude, érodant davantage la confiance de l'opinion publique. Elle a par ailleurs jugé sans précédent la participation de femmes irakiennes aux manifestations. Selon elle, cela marque une nouvelle page dans l'histoire de la mobilisation des femmes en Irak et les dirigeants politiques devraient en tenir compte. Janine Ennis-Pleschert a aussi appelé à reconnaître les abus intolérables dont sont victimes les Irakiens qui manifestent. Citant des meurtres, des enlèvements, des violences et des menaces, elle a jugé impératif de mettre un terme à ces abus et de faire en sorte que les auteurs soient traduits en justice.
Sur les 73 millions d'enfants dans le monde qui se rendent à l'école le ventre vide, la grande majorité, 61 millions, se trouvent en Afrique. À l'occasion de la Journée africaine pour l'alimentation scolaire, le Programme alimentaire mondial souligne les bienfaits des repas scolaires. Des repas qui contribuent également à faire des jeunes africaines et africains de futurs citoyens productifs. Les explications de Georges Fominienne, porte-parole du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale.
Imaginez-vous que vous êtes un enfant et que vous allez à l'école et que pendant que vous êtes en train de suivre des cours, vous n'avez pas mangé le matin et que peut-être, et surtout dans le contexte africain, vous avez très tôt le matin, vous êtes sorti pour aller chercher de l'eau, pour aller faire des petites tâches pour la famille et vous êtes en classe. Est-ce que c'est possible que vous allez bien vous concentrer sur ce que les enseignants vous donnent et tout ce qu'on peut faire comme éducation que vous pouvez recevoir? Parce que vous avez faim, ce n'est pas très facile à ce moment-là de suivre les cours. Donc, à la base, c'est quelque chose de très important pour qu'on ait au moins quelque chose à manger pour certains de ces enfants. C'est ce repas qu'ils ont à l'école, c'est qu'ils peuvent avoir pour toute la journée. C'est quelque chose qui aide à retenir les enfants à l'école. Donc, vous voyez l'importance de cette alimentation scolaire dont on parle. Et nous, au niveau du Programme alimentaire mondial, nous croyons que des écoliers bien nourris et en bonne santé sont mieux équipés pour apprendre, réaliser leur potentiel quand ils deviennent des adultes et participer donc au développement de leur pays en tant que citoyens productifs.
De nombreuses régions du monde devraient connaître des températures supérieures à la moyenne dans les mois à venir, a déclaré l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. Une hausse des températures qui devrait se produire même en l'absence du phénomène El Niño, connu pour réchauffer le climat. Mais d'autres phénomènes peuvent provoquer des changements brusques dans l'atmosphère, comme nous l'explique Wilfran Mufuma-Okia, spécialiste des prévisions climatiques à l'OMM.
De nombreux pays suivent attentivement l'évolution des Niño, mais dans le système climatique, il y a d'autres facteurs, et un des facteurs importants, c'est celui qu'on appelle le dipôle de l'océan Indien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en décembre, il y a eu des inondations en Afrique de l'Est qui étaient liées à ça. C'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent des Niño qui est dans l'océan Pacifique, et c'est qu'on trouve dans l'océan Indien une différence de température entre la partie Est et la partie Ouest. Et souvent, dans la partie la plus chaude, elle est accompagnée de pluies. Les pluies sont les plus marquantes parce que c'est ce qui affecte le plus, mais on a des pluies, on a des sécheresses, on a des vents, enfin, toute la circulation est modifiée. Or, ce qu'il faut noter, c'est que El Niño et les autres phénomènes, qui font partie de ce qu'on appelle la variabilité naturelle du système. Mais à cela, il faut rajouter le réchauffement qui amplifie ces fluctuations. Ce qui est vrai, la tendance est au réchauffement. Et dans le bulletin qui a été publié par rapport à El Niño, ils disent que les modèles prévoient un réchauffement sur les surfaces terrestres. Donc la température va augmenter. En fait, tout ça, c'est lié au réchauffement climatique qui est en toile de fond. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce mois de janvier a été très chaud sans El Niño. Parce que vous savez qu'El Niño rajoute quelques degrés de chaleur. On peut imaginer ce que ça aurait été si on avait un El Niño au-dessus.
Le groupe de haut niveau sur la responsabilité, la transparence et l'intégrité financière internationale a lancé lundi ses travaux au siège de l'ONU. Ce groupe a pour mission de formuler des recommandations concrètes pour lutter contre les flux financiers illicites afin de mieux pouvoir financer les ODD, les Objectifs de Développement Durable. Ancien Premier ministre du Niger et actuel secrétaire exécutif du NEPAD, Ibrahim Mayaki revient sur la mission de ce groupe de haut niveau qu'il co-préside, ainsi que sur le manque de financement des ODD.
On n'a pas mobilisé suffisamment de ressources pour réaliser l'agenda 2030. Et la lutte contre les flux financiers illicites rentre dans cette perspective de combler le gap qui existe pour le financement de l'agenda 2030. Les estimations, elles vont de centaines de milliards à des milliers de milliards. Tout dépend de ce dont on parle. Est-ce qu'on parle de corruption? Est-ce qu'on parle d'évasion fiscale? Est-ce qu'on parle d'optimisation fiscale adaptée? Est-ce qu'on parle de blanchiment? Toutes ces différentes catégories ont des estimations de volume, mais les volumes sont considérables et ils peuvent atteindre des trillions de dollars.
Concrètement, qu'est-ce que ça comme impact, ces flux financiers illicites, sur le bien-être de la population?
Trois types d'impacts, très simples. Le premier, c'est le crime organisé. De nombreuses études ont été faites entre le crime organisé et le terrorisme. Donc les flux financiers illicites alimentent le crime organisé ou proviennent du crime organisé et peuvent évidemment alimenter le terrorisme. Et on a plein d'exemples en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Le deuxième exemple, c'est que le fait de divertir ou de réallouer des ressources qui devraient aller vers des besoins sociaux à des questions de corruption, évidemment, a un impact considérable sur les politiques de lutte contre la pauvreté. Troisièmement, comme nous sommes dans un monde qui est extrêmement connecté, la traçabilité de ces flux est difficile à identifier. Et à partir du moment où la traçabilité est difficile à identifier, vous ne pouvez pas imaginer le nombre considérable d'impact que ça peut avoir, que ce soit sur la nutrition, sur les infrastructures, sur la qualité du transport aérien.
Et à l'ère du numérique et des nouvelles technologies et d'une mondialisation de plus en plus accrue, est-ce que vous pensez que les gouvernements et l'ONU sont équipés des moyens, mais également de la volonté politique pour remédier à ces problèmes?
Il est de plus en plus manifeste que tous les gouvernements veulent lutter contre le crime organisé et les flux financiers illicites s'assimilent de plus en plus à ces questions qui vont à l'encontre de la morale. Mais au-delà d'aller à l'encontre de la morale, elles vont à l'encontre de l'efficacité économique. Rappelez-vous la crise financière 2008 et les efforts que ça a pris pour la résorber. Dans la crise financière 2008, il y a des aspects qui peuvent être considérés comme étant liés à des flux financiers illicites. Donc il est dans l'intérêt de chaque gouvernement aujourd'hui de lutter contre ces processus parce que, premièrement, ça lui permet de construire en interne des politiques sociales qui vont éviter des implosions. Et puis, deuxièmement, ça lui permet de profiter de plateformes internationales où il peut y avoir des échanges de pratiques. Et puis, on peut engager des mécanismes de coopération internationale de plus en plus efficaces. Donc je pense, un, la volonté politique est là. Deux, les intérêts peuvent, dans le détail des recommandations techniques, paraître être divergents, mais fondamentalement, il y a une volonté politique réelle.
Les impôts sur les sociétés, c'est 15% des recettes dans les pays en développement. C'est seulement 9% dans les pays développés. Est-ce dire qu'il y a des pays qui doivent faire plus d'efforts que d'autres?
Oui, non seulement certains pays doivent faire plus d'efforts que d'autres, mais il y a aussi la question de la capacité. Je vous donne un exemple. Moi, je viens d'un pays comme le Niger, qui est un pays minier. Si vous allez au ministère des Mines du Niger, vous n'aurez pas plus d'une dizaine de juristes spécialistes des contrats complexes. Alors, comment voulez-vous qu'avec une dizaine de juristes, des fois moins de 10 spécialistes des contrats complexes, on puisse négocier valablement avec des multinationales qui ont des centaines de spécialistes fiscaux. Donc il y a aussi une question de capacité, et tant que ces capacités-là ne sont pas renforcées, il est difficile d'avoir une mobilisation des ressources domestiques, c'est-à-dire un revenu national qui augmente et un niveau de pression fiscale adéquat. Vous savez que l'Afrique, par exemple, est la région du monde qui a la plus faible pression fiscale, qui oscille en 12 et 19% selon les régions, alors que toutes les régions sont bien au-delà de 20 et de 30. Donc il y a une question de volonté, mais il y a aussi une question de capacité.
Fin de ce journal de Nu Info, à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.